Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Ah, le jeune Rossi. Il a du boulot,
oui,
lui.
Oui, tout jeune, oui. Comment ?
Il a du boulot, lui.
Jeune mais sourd, vous avez vu ? Jeune mais sourd, quand même.
Oui, ça arrive, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Oui, ça arrive au meilleur.
Faut arrêter.
Eh oui. Vous avez raison, les vraies voies de l'emploi, ce soir consacré, tiens Christophe, aux entreprises et à la solidarité. Est-ce que les entreprises sont assez généreuses? Ils ont un arsenal juridique avec eux entre les fondations, les fonds de dotation et surtout.
Mais généreux avec qui alors? Je ne comprends pas.
Eh bien généreux avec, par exemple, face à la crise du Covid, avec les associations par exemple, les Restos du Cœur par exemple.
Bon, ça serait déjà bien d'être généreux avec les salariés si c'était possible, mais bon.
Oui, alors on va y venir.
Pas trop demander non plus.
On va en parler. Mais...
voilà.
On va en parler. Allez, dans les vraies voies de l'emploi ce soir. Merci à vous et jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Et vous, évidemment, Sud Radio vous donne la parole, 0826 300 300, c'est le numéro du standard. Si vous désirez intervenir, on vous attend nombreux, allez-y, 0826 300 300, les vraies voies de l'emploi consacrées ce soir, je le disais, aux entreprises et à la solidarité. Eh oui, fondation, fonds de dotation, RSE, les entreprises sont de plus en plus solidaires et généreuses. Même la crise économique n'a pas réussi ces dernières années à entraver l'envolée que connaît la philanthropie d'entreprises. En augmentation, certes, évidemment, et c'est tant mieux, mais avec tous les appareils juridiques disponibles, comme les fonds de dotation par exemple, les entreprises sont-elles assez solidaires, et quid surtout des petites entreprises? Eh bien, on va en parler justement dans cette émission. Donne-t-elle aussi? Donne-t-elle assez? Bref, c'est notre débat et la question qu'on vous pose ce soir. Fondation, fonds de dotation, RSE, les entreprises sont-elles au rendez-vous de la solidarité? Vous votez, oui ou non, sur Twitter, Facebook, le 0826 300 300. On va en débattre tous ensemble. Bonsoir Jérôme Laverny, directeur du réseau national de Mission Emploi. Bonsoir mon cher Jérôme.
Bonsoir Philippe, ravi de vous retrouver.
Bonsoir à vous Jérôme Laverny, entrons dans le vif du sujet avec vous avant d'accueillir notre invité. En France, il existe, et je le disais, un arsenal de moyens juridiques pour permettre aux entreprises de faire des dons sans que ça leur coûte beaucoup. Est-ce que selon vous, selon votre sentiment, elles jouent assez le jeu ces entreprises ?
Oui, amplement, mais précisément le but de notre mission d'aujourd'hui, c'est peut-être de dépasser les deux termes que vous venez d'évoquer à juste titre, celui d'arsenal et de don, pour voir combien de la mauvaise expérience que nous venons de traverser et dont nous sortons fort heureusement, il ressort que ces belles initiatives, cette énorme solidarité venant aussi, et il est convient de le signaler, des entreprises, et lui-même dépassé cette espèce de d'arsenal juridique auquel vous faisiez allusion, et ne s'est pas borné simplement dans une manifestation de dons ayant vocation à se donner bonne conscience. Il y a une sorte de marché, non pas de la misère, de la solidarité, où il est vrai qu'il est une pratique ancestrale consistant pour un certain nombre d'entreprises, au gré des avantages fiscaux qui leur sont alloués, de consacrer des sommes à des associations, des fondations, des initiatives. Or, ce qui s'est produit lors de cette crise et ce qui pointe le bout de son nez, à l'issue de cette dernière, consiste en autre chose, repose en autre chose. C'est dans l'air du temps, ce débat de savoir qu'est-ce qu'il va se passer après. Il est bien heureux aujourd'hui de se pencher sur ce qui s'est passé pendant, pour voir et faire l'explication de texte de l'espoir qui pointe le bout de son nez par la traduction des actions qui ont été réalisées.
Alors, je vous propose d'accueillir tout de suite notre invité pour en parler, pour commencer ce débat. Riyad Tristan Attic, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, Riyad Tristan. Vous êtes délégué général fonds de dotation de la communauté aéroportuaire de Paris. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, racontez-nous tout simplement, déjà pour commencer, en quoi consiste votre fonction et votre job.
Mon job est d'organiser en fait ce fonds de dotation. Je ne suis pas financier, ce sont des entreprises en fait qui verse une subvention à ce fonds de dotation. Nous avons commencé avec 8 entreprises au départ, 8 membres fondateurs, et aujourd'hui nous en sommes, après 2 ans et demi, à 23 entreprises aujourd'hui. Je gère en fait ce fonds de dotation, je recherche les associations, je suis contacté par les associations, et ensuite au-delà du côté financier, les chefs d'entreprise s'engagent aussi à choisir les projets qui sont présentés par ces mêmes associations.
Alors, vous parliez de subvention. Quelle est la différence avec des dons? C'est-à-dire qu'ils subventionnent concrètement le fonds de dotation et par la suite font des dons. Comment ça se passe?
C'est un don qui est versé au fonds de dotation et ensuite, lors du comité de sélection, nous choisissons des projets et nous versons des subventions par la suite à ces associations.
Alors, Ria Tristan Attic, qu'est-ce qui motive finalement ces entreprises, hein, il y en a beaucoup dans votre fonds de dotation. Qu'est-ce qui motive un jour une entreprise à se dire, bah voilà, je veux donner à des associations?
Écoutez, je pense que, alors déjà, de par les thématiques, certaines choisissent des thématiques différentes. Nos entreprises ont choisi la formation et l'insertion. Il y a une volonté, une réelle volonté pour les entreprises du fonds de dotation de former les jeunes et les moins jeunes en Île-de-France sur les métiers notamment de l'aérien. Parfois, ils le font d'une manière anonyme. Ils ne cherchent pas vraiment à faire une publicité autour de cela. C'est un engagement, c'est un vrai engagement des chefs d'entreprise. En tout cas, de celles qui sont dans le fonds de dotation, mais pas que. J'en connais d'autres qui sont dans d'autres, qui agissent dans d'autres avec leur fondation, avec d'autres fonds de dotation. Et voilà, donc c'est une volonté vraiment d'avancer sur de créer de l'emploi, de former des jeunes en l'occurrence et des moins jeunes. Je sais, je fais attention avec Jérôme Laverny sur cette question.
Voilà. Jérôme Laverny, justement, puisque Ria Tristan Attic vous a interpellé avec humour. Finalement, on parlait de moyens juridiques, avec tous ces fonds de dotation et des entreprises qui un jour sont motivées et donnent à des associations. Alors, je l'ai bien compris, qu'ils sont en rapport parfois avec leur activité et ça se comprend. Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, Jérôme Laverny? On voit beaucoup de personnes. J'ai lu beaucoup d'articles aujourd'hui qui se posaient la question: est-ce que ces entreprises veulent vraiment donner par solidarité ou est-ce que c'est un peu de la communication, de l'image? Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Laverny?
Ria Tristan Attic le mentionnait à l'instant, certaines d'entre elles ne font pas de publicité de ces dons, du temps qu'elles donnent. Je m'entretenais tout à l'heure avec la déléguée générale de la Fondation ADP qui me racontait notamment que certaines hôtesses d'Air France étaient en ce moment dans les hôpitaux pour pouvoir relayer un petit peu tout le personnel qui avait été largement sollicité pendant la crise. Et là, pour le coup, encore une fois, pas de publicité à grand renfort de je ne sais quel reportage ou autre. Véritablement, c'est fait dans la plus grande des discrétions et c'est fait non seulement à l'instigation, pas exclusivement des dirigeants, des managers, mais également des salariés qui sont bénévoles et volontaires pour pouvoir participer à ce genre d'opération. Si vous voulez, au-delà des montants, au-delà des opérations en soi, il faut y voir quelque chose de purement symbolique, et notamment dans ce qui vient de se produire dans les différentes semaines. C'est que c'est la rapidité et l'efficacité. Lorsque l'État décide de consacrer, en tout cas de se pencher sur une cause en particulier, il y a des appels de fonds, des appels à projets, on y répond, on met cela en place, des réunions de comité de pilotage qui permettent de s'endormir posément. Bref, tout un process qui suppose une longueur infinie avant que n'intervienne sur le terrain. Coluche et l'abbé Pierre n'ont pas répondu à un appel à projet, n'ont pas répondu à un appel d'offres d'une région ou d'un État. Ils ont agi directement et ce n'est qu'après qu'il s'est posé la question de se soucier des fonds qui pouvaient soutenir l'initiative. Eh bien, c'est précisément ce que font ces entreprises en se réunissant autour d'une table, comme elles n'y sont absolument pas obligées ni contraintes et comme elles n'ont pas forcément et systématiquement la nécessité d'en faire la publicité. Mais vous avez raison quand même de soulever cet aspect-là. On a été souvent dans ce que moi j'appelle le « je suis charlisme » et sans mépris quelconque pour ce qui s'est produit à l'occasion des attentats de Charlie, c'est pas le problème, mais c'est que parfois on peut soupçonner qu'il y ait une velléité de spectacularisation de l'action bienveillante et solidaire. C'est plus tout à fait le cas, ça n'a pas été le cas et ça n'a pas été le cas précisément pendant cette crise lorsqu'il s'est agi d'agir et de réagir vite par rapport à la gravité des événements.
Merci Jérôme. Merci à vous, Ria Tristan Attic, délégué général fonds de dotation de la communauté aéroportuaire de Paris. Merci de nous avoir éclairé déjà sur ce qu'est un fonds de dotation, votre fonction et ce qui motive les entreprises et comment elles font pour donner. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre notre débat. Fondation Fonds de Dotation RSE. Les entreprises sont-elles au rendez-vous de la solidarité? Vous votez sur les réseaux sociaux, pour l'instant, c'est non, hein, voilà. C'est ce que vous pensez, c'est votre avis après tout. Non à 71%. Vous vous donnez votre avis également au 0826-300-300. Et on revient dans quelques instants avec Jérôme Laverny et le directeur du développement durable de Carrefour. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Et le mardi, c'est l'emploi, les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Vous êtes sur Sud Radio avec Jérôme Laverny qui est avec nous comme chaque mardi, directeur du réseau national Mission Emploi. Ensemble, eh bien, on poursuit notre débat et cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Fondation, fonds de dotation RSE, les entreprises sont-elles au rendez-vous de la solidarité? Toujours 68% de nos auditeurs, hein, vous nous répondez non sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous continuez à voter, évidemment, le 0826-300-300 si vous voulez intervenir avec nous à l'antenne et poursuivre le débat avec nous. On accueille tout de suite Bertrand Swiderski, voilà, qui est avec nous, directeur du développement durable de Carrefour. Bonsoir, mon cher Bertrand, bonsoir à vous.
Bonsoir, bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio, Bertrand Swiderski. Petite question avant de redonner la parole à Jérôme Laverny et de poursuivre avec vous et d'essayer de creuser un petit peu le débat. Que répondez-vous, tiens, à notre sondage, les entreprises sont-elles assez solidaires? Carrefour est-elle assez solidaire? J'imagine que vous n'allez pas me répondre non.
Alors, il serait difficile de vous répondre non, mais il y a une solidarité, c'est ce que je vous expliquais. La solidarité, ce n'est pas uniquement un don d'argent, une fondation. Bien sûr qu'on a une fondation, mais la solidarité, c'est une relation que vous arrivez à créer. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Il y a de la solidarité et il y a eu, pendant la crise, beaucoup de solidarité de nos clients et de nos collaborateurs. Donc, c'est cette double solidarité dont je voudrais vous parler.
Alors, comment ça se passe concrètement? Comment Carrefour est solidaire, en fin de compte? Expliquez-nous.
Je voudrais juste vous exposer un peu quel est le métier, déjà, que j'exerce.
Allez-y.
C'est de tout faire pour que on soit un commerçant et qu'on apporte un bénéfice, pas seulement pour nous dans notre entreprise, mais un bénéfice global à la société, aux consommateurs. Et ça nécessite de la solidarité. Je vous donne juste un exemple, puisque je sais que Alexandre Jardin vient juste après. Il a proposé de pendant la crise de se dire tiens, faisons ensemble des masques pour les personnes les plus fragiles. Et ben quel rôle peut jouer un grand distributeur à ce moment-là? Seuls les magasins et nos magasins Carrefour étaient ouverts et c'était le lieu où il pouvait y avoir un échange. Donc là, tous ensemble, par un élan de solidarité, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un genre d'envie d'aider la société. Eh ben, on se met ensemble avec une association, Paris Good Fashion, avec Intermarché aussi, avec des différents acteurs. On se met ensemble autour d'Alexandre Jardin et on se dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de produire des masques pour les personnes les plus fragiles, avec des couturiers volontaires, avec des gens qui donnent du textile? Tout ça, vous savez pas pourquoi, mais cette solidarité, elle est en nous. On la donne et on a réussi. Vous allez voir, c'est 1 million de masques qui ont été produits sur les 3-4 semaines par juste cette solidarité.
Et puis alors, est-ce que vous avez communiqué, Bertrand Swiderski, est-ce que vous avez communiqué justement sur cette solidarité et sur le million de masques que vous avez créés, que vous avez fournis? Est-ce que vous en avez parlé? Je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'avec Jérôme Laverny, on en discutait tout à l'heure, voilà, il y a quelques minutes. On se pose la question de ces grandes anciennes, par exemple, qui sont solidaires. Est-ce qu'elles sont solidaires par pure sincérité, parce que c'est dans son ADN, ou est-ce qu'elles sont un peu solidaires aussi parce que c'est bon d'être solidaire, c'est bon pour l'image, bon pour le marketing? C'est une question un peu qui fâche, qui y a une question un peu épineuse, mais qui mérite d'être posée. Est-ce que vous, j'imagine, bien sûr, vous n'allez pas me dire le contraire, mais est-ce que une question toute simple, parce que c'est important pour l'image d'une enseigne, d'apparaître, par exemple, dans le générique d'association?
Je comprends bien la question, mais déjà, est-ce que vous étiez au courant qu'on avait fait ça? Je suis pas certain. Je
pense que non, toute vous me l'apprenez, c'est vrai.
Toute notre communication a été focalisée sur trouver des couturiers, couturières, trouver du tissu et réussir à faire que les masques arrivent jusqu'aux personnes les plus fragiles. Franchement, toute la communication a été dirigée vers cet objectif-là. L'objectif est atteint, donc c'est sûr que pour nous, en interne, ça donne beaucoup d'énergie. Mais vous savez, je pense que c'est au niveau local qu'il faut tout voir. Moi, je vous donne un exemple d'un magasin qui est à Bordeaux, Carrefour Bastide. La patronne, elle s'appelle Inès, et elle se dit, c'est une bonne idée qu'ils ont là. J'ai une personne en caisse qui sait coudre aussi, donc elle voudrait faire des masques. Donc elle l'invite en magasin, elle vient avec sa machine à coudre, ils vont coudre des masques pour les clients et montrer un peu aux clients comment on coud les masques. Ensuite, il y a des personnes qui viennent apporter du tissu, des chemises notamment, pour qu'on puisse coudre des masques. Et après, vous voyez, il se crée quelque chose de solidaire. Et bien sûr que Inès, à la sortie de ça, elle dit « Bah oui, bah, c'est incroyable, j'ai des gens qui sont venus me remercier, je suis passé à la radio en plus, j'ai des gens qui sont venus me demander quasiment un autographe. » Donc en fait, très localement, c'est positif. Mais c'est positif parce que je me suis investi personnellement dans cette solidarité. Vous voyez, c'est pas un effet « je vais communiquer parce que je suis fier d'avoir mené une action ». C'est plutôt « je fais une action et ça attire, ça crée de l'activité ». Mais je vous dis, la solidarité, pour moi, si je devais la définir dans une entreprise, c'est comme si vous puisiez de l'énergie. Vous voyez, je prends un autre exemple. Vous voyez, c'est qui le patron, la marque de lait? C'est qui le patron? Quand on la lance chez Carrefour, c'est la solidarité du consommateur auquel on fait appel. Cette énergie, en fait, solidaire du consommateur qui va être solidaire avec le producteur de lait et qui se dit, bah, tiens, je vais acheter le lait, c'est qui le patron? Et je viendrai dans les magasins Carrefour pour l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a une énergie en nous tous, en chacun de nous. Et n'oublions pas qu'une entreprise, c'est aussi un nombre de personnes, toutes différentes. Et bien, l'énergie qu'on a en chacun de nous, ben, par la solidarité, on arrive à l'extraire.
Jérôme Laverny, Jérôme Laverny, c'est vrai, Bertrand a raison que d'abord la solidarité et l'énergie est communicative, et c'est vrai que les grandes anciennes, à l'image de Carrefour, c'est pas pour leur faire de la pub, souvent appellent leurs clients à être solidaires via des achats par exemple au sein de leur boutique. C'est vrai que du coup voilà, quand des grandes anciennes ou des commerçants, des entreprises appellent leurs clients et intègrent leurs clients à cette solidarité, eh bien j'ai envie de dire c'est tout bénef.
Et on va pas cracher dans la soupe, c'est effectivement tout bénef qu'elles donnent l'impulsion d'un élan de solidarité. Si ça fait pas de bien, ça fera pas de mal en tout cas. En tout cas, une chose est certaine, de ce témoignage, il ressort qu'il faut impérativement qu'on sorte du manichéisme qui consiste à concevoir le monde avec des gentils d'un côté, les pouvoirs publics et associatifs, et des méchants de l'autre, assoiffés de profits financiers, les entreprises. Et c'est tellement vrai que les associations, ou les associations notamment, savent très bien, dans la plus grande des discrétions, demander le reversement de la taxe d'apprentissage. Et sans le financement, par exemple, apporté par ces entreprises à ces associations, elles auraient bien une peine de pouvoir avancer sur un certain nombre de projets. Il faut sortir du manichéisme. Personne n'a l'apanage de la bienveillance et de la gentillesse. Donc, une entreprise, ce n'est pas simplement qu'un nom. Il y a dans les entreprises tout un tas de Bertrand Swiderski qui ont le mérite d'impulser encore une fois le mouvement. Et quant au marketing qu'on pourrait reprocher aux unes et aux autres, j'invite nos auditeurs à se pencher sur le marketing politique, à la rigueur, qu'on pourrait reprocher à certains hommes et personnages publics qui ne manquent pas de faire valoir leur investissement dans tel ou tel projet à renfort de selfies kakémono. Donc franchement, c'est un mauvais procès que de le faire. Il faut sortir de ce débat-là. Voilà, on a besoin d'impulsion tant financière, mais pas que financière, dans l'efficacité, dans le mode opératoire, dans la rapidité. Ce qu'a fait Carrefour, là, avec l'impulsion de projets locaux, il va nous en parler, monsieur Swiderski, c'est absolument génial.
Bertrand Swiderski, justement, on a vu qu'avec cette crise du Covid, et on a fait une émission là-dessus avec Jérôme Laverny à ce sujet, eh bien, on a vu la solidarité des Français. On savait tous que les Français étaient solidaires, mais là, vraiment, on l'a vu, elle a éclaté au grand jour. Les entreprises aussi ont été très, très solidaires. Donc, vous, Bertrand, vous nous l'avez raconté au nom de Carrefour, en parlant des masques et de ce million de masques, vous avez été aussi extrêmement solidaire. Est-ce que cette crise sanitaire vous a donné des idées? Est-ce que vous avez pris conscience qu'il fallait peut-être être encore plus investi dans cette solidarité à l'avenir?
Non, je pense que cette crise, elle nous a renforcés dans l'idée que la solidarité, elle générait beaucoup d'énergie. En fait, la mobilisation générait beaucoup d'énergie. Vous savez, on a démarré un projet avant la crise qui était un projet de crowdfunding. De crowdfunding très simple, mais lié à des projets agricoles. Vous voyez, on a créé une plateforme qui s'appelle jeparticipe.carrefour.com et qui permet à tout un chacun, à vous par exemple, d'aller aider un projet. Là, vous voyez, j'ai Angélique qui en fait voulait installer un système de bien-être animal pour ses bovins. Elle habite elle a une exploitation à Pouligny-Saint-Pierre. Elle avait besoin de 4000 euros. Et ben, elle les a collectés via cette plateforme par solidarité. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, elle a eu ces 4000 euros. Elle a été financée. Et c'est juste la solidarité des consommateurs. Et nous, dans ces cas-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est juste un acteur de mobilisation des consommateurs pour aller pour aller aider ce type de projet. Et des projets comme ça, vous voyez, je vous le dis, on en a fait 67 de projets. Et quand même, les consommateurs ont financé jusqu'à 3,8 millions d'euros par solidarité pour des producteurs locaux. Et c'est des petits projets.
Jérôme, en quelques mots, Jérôme, on va devoir malheureusement
aller
en pub.
C'est super important, Philippe, à l'instar de Coluche et de l'abbé Pierre, ce que décrit M. Sidinski, c'est qu'on part d'un besoin pour aller chercher le financement et on ne fait pas l'inverse. Et c'est ce qui se produit malheureusement dans le contexte public et parfois associatif.
Et oui, merci à vous Bertrand Swiderski, directeur du développement durable de Carrefour. On va poursuivre le débat dans un instant. Fondation, fonds de dotation RSE, les entreprises sont-elles au rendez-vous de la solidarité? Votre avis au 0826 300 300 et vos votes sur les réseaux sociaux. On vient très vite avec l'écrivain Alexandre Jardin. Tiens, si vous nous suivez sur Facebook par exemple, on le voit gambader dans la rue. Depuis quelques secondes, Alexandre Jardin sera avec nous dans quelques instants. La solidarité, il connaît évidemment. On en parlera avec lui. Jérôme Laverny, toujours avec nous. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Et retour des vraies voix de l'emploi sur Sud Radio avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Et notre débat donc ce soir depuis 19h. Fondation, fonds de dotation RSE, les entreprises sont-elles au rendez-vous de la solidarité? Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Pour l'instant, eh bien, ouais, c'est votre sentiment, hein. Vous votez sur les réseaux sociaux. On aimerait aussi vous entendre au 0826 300 300. Pour le moment, c'est un non, non à 68%. On va peut-être essayer, tiens, avec Alexandre Jardin, de vous faire changer d'avis. Bonsoir, mon cher Alexandre.
Bonsoir.
Bonsoir Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, que vous connaissez bien sur Sud Radio et que vous connaissez tout court, j'ai envie de dire écrivain. Alors justement, avant de commencer, eh bien, demain est un grand jour pour Alexandre Jardin, mais pas seulement pour lui, pour nous aussi lecteurs, puisque Alexandre, votre livre sort demain, c'est ça, je me trompe pas sur la date, c'est bien le 3 juin, française aux éditions Albin Michel. Ah, bon, on a perdu Alexandre Jardin, peut-être un peu trop ému par la sortie de son livre, mais je vous invite à acheter son livre demain, comme tous les livres d'Alexandre Jardin. Voilà, ça s'appelle « Française » aux éditions Albin Michel. On va retrouver Alexandre Jardin dans quelques mots. Jérôme Laverny, justement, on parlait de solidarité et je vous évoquais le sondage, donc nos auditeurs, qui à 68% trouvent que les entreprises ne sont pas au rendez-vous de la solidarité. Qu'est-ce que vous inspire ce chiffre? Est-ce que ce vote vous dérange? Non, pardon. Est-ce que ce vote... vous étonne, Jérôme?
Si marketing il y avait, oui, il m'étonne. C'est dire si marketing devait y avoir, qu'il est assez inefficace, puisque avec tout l'argent que mobilisent les entreprises, il n'y a encore une fois aucune association ne fonctionnerait s'il n'y avait, ne serait-ce que par l'entremise des fonds publics, la possibilité de pouvoir subvenir leurs besoins. C'est dire combien ce marketing serait inefficace et est donc au final relativement discret. Elle est importante, cette implication des entreprises, pour une autre raison. Vous savez, moi, depuis 7 ans, la question que j'ai le plus essuyée, c'est celle de savoir quel était mon intérêt. Voilà. Si on fait quelque chose, il faut immanquablement, en France ou dans un pays où il faut immanquablement qu'on y ait un intérêt. Et on entend généralement par un intérêt financier. Pourquoi c'est important que ce soit des entreprises qui s'investissent? Parce que précisément, s'investissant dans une cause de type solidaire, il n'en va pas d'un investissement qui va conditionner leur survie économique, leur profit. Et c'est tout l'intérêt donc de cet investissement, parce que tout d'un coup, ça permet d'ouvrir des portes, de décloisonner les blocages et de faire en sorte que l'action solidaire ne dépende pas pour sa survie d'un fonds quelconque, de l'attribution d'une subvention quelconque, mais soit l'impulsion désintéressé, par conséquent, en l'occurrence d'une entreprise, c'est véritablement fondamental. Vous parliez de l'ouvrage d'Alexandre Jardin.
Alors justement, mon cher Jérôme, Alexandre Jardin est de retour avec nous. On va en parler. Bon, bah très bien, Alexandre, ça avait un petit peu coupé. Alors justement, je parlais de votre livre et de cette date demain, le mercredi 3 juin, jour cher pour vous puisque c'est la sortie de votre livre. Enfin, j'ai envie de dire, française aux éditions Albin Michel. Alexandre Jardin, en quelques mots sur votre livre, en quelques mots, française.
D'abord, ça me touche beaucoup d'en dire quelques mots sur Sud Radio. Parce que Sud Radio fait partie des rares radios où on entend les milieux populaires français.
C'est vrai.
Et c'est vrai. Où et notamment les femmes des milieux populaires qu'on n'entend pas. Et en publiant ce roman française, j'ai vraiment voulu donner la parole à toutes ces Françaises, puisque le livre est écrit à la première personne par une femme d'un milieu populaire, qu'on n'entend jamais à la télé, qu'on ne comprend pas, qu'on juge, qui n'ont pas voix au chapitre et qui sont perpétuellement jugées. Et mon héroïne est justement une femme qu'on ne tient plus, que la culpabilité ne tient plus, qui, elle a pas de surmoi, elle a une puissance de vérité absolument exceptionnelle. Je suis fou d'elle. Je suis absolument fou amoureux de mon héroïne. Parce qu'elle a cette espèce de... C'est un bloc de vérité. C'est une plus que vraie. Et on est dans un moment où, en littérature, on ne voit plus les milieux populaires. Et quand Paris publie des bouquins sur les milieux populaires, on parle du quart monde, ou alors on parle des cités, ou alors on fait des films uniquement sur les cités. Mais le peuple, c'est pas ça. Le peuple, c'est beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus de gens extrêmement différents. Et française, j'ai voulu revenir à cette littérature du 19e siècle. Quand on lisait au 19e siècle Les Misérables, quand on lisait Eugène Sue, quand on lisait Zola, on voyait le peuple. Et je n'accepte pas de vivre dans une société où la littérature et le cinéma sont en train de passer à la trappe les milieux populaires. Ça m'est devenu insupportable parce que, justement parce que je suis engagé depuis 20 ans et que je sais que l'intelligence collective, elle est dans les territoires, elle est dans les communes, elle est dans tout ce que Paris juge. Voilà.
Et donc c'est la française, donc le livre d'Alexandre Jardin aux éditions Albin Michel, que vous allez pouvoir acheter, je l'espère, dans toutes les librairies, évidemment, dès demain. Alors Alexandre Jardin, il est question de solidarité ce soir. On a accès évidemment sur les entreprises, ce sont les vraies voies de l'emploi. De plus en plus d'entreprises donnent, c'est un fait. Mais est-ce que c'est assez selon vous, Alexandre?
Elle peut faire des choses beaucoup plus intéressantes que de donner.
Exactement.
Impliquer les entreprises dans l'action de terrain. Et ça fait 20 ans que je suis engagé. Je vais vous prendre un exemple tout bête. On a monté il y a 20 ans un système qui fait lire 750 000 enfants, qui s'appelle Lire et Faire Lire. Bon, on a embarqué 20 000 personnes de plus de 50 ans dans un programme intergénérationnel. Bon, on fait lire massivement les enfants des classes populaires françaises. Qui nous aide aujourd'hui? Je prends un exemple. Parmi tous ceux qui nous aident, il y a Cultura. Cultura n'a pas donné d'argent. Ils ont fait beaucoup mieux. Ils ont fait une campagne d'arrondi à la caisse. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 32,20 €, vous payez 33 euros. Et ça finance Lire et Faire Lire. Ça a rapporté 250 000 euros au moment où l'État est absolument incapable de nous aider. Au moment où il n'y a plus d'argent public. Donc à partir du moment où l'argent public disparaît, il faut essayer d'être le plus malin. Et les entreprises, là où elles peuvent nous aider fantastiquement, c'est en étant des facilitateurs. Et je prends cet exemple de l'arrondi à la caisse. C'est évident que là, cet argent, on va pouvoir l'envoyer dans les départements français pour payer plus de coordinateurs locaux au niveau des départements. Eh bien, sans l'aide de Cultura, on n'aurait pas pu. Là, on vient de monter Masque Solidaire. On va produire entre 2 et 3 millions de masques gratuits qu'on va pouvoir donner aux gens fauchés. Parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Hein. Tout le monde ne peut pas se payer des masques. Et encore moins pour l'ensemble de sa famille. Avec des budgets qui tournent entre 120 et 150 euros par mois, il y a des tonnes de familles qui ne peuvent pas.
Surtout qu'il faut utiliser le masque 2-3 fois par jour, puisqu'un masque ne dure que 4 heures, je le rappelle. C'est très très compliqué. C'est vrai que c'est un réel coût pour les familles. C'est vrai.
C'est un réel coût. Donc on s'est dit, en créant masquesolidaire.fr, au singulier, on s'est dit, il faut qu'on arrive à vider les placards des Français. Récupérer les draps, trouver des couturiers et des couturières bénévoles, et puis ensuite le faire distribuer. Comment? Eh bien, on a mis autour de la table Carrefour, Intermarché, Monoprix et maintenant les Galeries Lafayette. Bon. Tout simplement, ce sont des structures qui ne nous coûtent pas d'argent puisqu'elles sont déjà financées pour la récupération des masques. Ensuite, ils nous ont apporté une aide logistique énorme. Ils ont des flottes de camions. Ils nous ont apporté tous les services marketing. Ils nous ont apporté toute la structuration. On n'avait pas d'agence de com. Il faut faire un logo, il faut faire des sites, il faut faire des pages Facebook. Tout à coup, ce sont leurs services. Et jamais on n'aurait pu produire entre 2 et 3 millions de masques.
Finalement, là, Alexandre, c'est ce que vous disiez, ils ne donnent pas que de l'argent, ils donnent de leur temps, ils donnent de leurs compétences, ils donnent de leur énergie.
De leur métier. Ils ont des métiers.
De leur métier.
Il y a Webhelp, par exemple, qui nous a filé. On avait plein de couturiers et de couturiers qui n'étaient pas à l'aise avec Internet. Ben, ils nous ont donné un numéro de téléphone gratuit avec des gens qui répondent au téléphone. C'est Webhelp qui nous a donné ça. C'est un métier de savoir répondre au téléphone. Il faut former des équipes. Donc, là où les boîtes sont incroyablement efficaces lorsqu'on veut régler un problème social, un problème civique, c'est qu'elles ont des métiers. Et par leurs compétences, on peut s'en sortir. Je vais vous prendre un petit éditeur assez génial qui vend des albums jeunesse à 80 centimes au fond des cités et à la campagne, qui s'appelle Lire, c'est partir. Ben, ils nous ont prêté leur flotte de camionnettes pour aller récupérer les donateurs de tissus. Ils ont embarqué tout à Bordeaux, où on est en train de créer une usine. Ou alors, où vous avez une usine à nouveau à côté de Bordeaux, de Lectra. Ils ont un showroom. Dans le showroom, il y avait des machines pour découper du tissu. Et les gens du showroom se sont dit, mais ça sert à rien, un showroom. Et ils ont transformé le showroom en usine. Ils avaient les machines. Là, on est juste la semaine dernière, ils ont déjà sorti 36 000 masques. Parce qu'ils avaient le matériel. Donc, si on veut mobiliser la puissance de la société civile, il faut des citoyens, il faut des bénévoles, mais il faut aussi les boîtes. Parce que la puissance, et quand on a un très gros problème à régler, il faut des partenaires puissants.
Jérôme Laverny, finalement, entendre Alexandre Jardin nous énumérer hein, tout ce que les entreprises ont fait, déjà on se dit, et moi j'étais ignorant, je ne savais pas que les entreprises sont formidables, qu'elles sont extrêmement solidaires, qu'elles, je le disais, elles ne donnent pas que de l'argent, mais de leur temps. Mais je pense aussi, Jérôme Laverny, à ces petites entreprises, par exemple, de 2-3 salariés. Comment elles, par exemple, peuvent-elles faire pour donner? Parce que j'imagine que donner de l'argent, c'est peut-être un petit peu compliqué pour elles. Donner comme ça de leur temps, de leurs compétences, de leur métier, de leur savoir, elles peuvent le faire, mais c'est peut-être un petit peu aussi compliqué puisqu'elles ne sont que 3 à faire gérer la boutique. Comment ça peut se passer, Jérôme Laverny et Alexandre d'ailleurs, pour ces petites entreprises qui aimeraient donner, être solidaires aussi?
Mais je vais vous dire, ça passe pas forcément par des actions grandiloquentes. Comme ça peut être mené effectivement par un grand groupe. Moi, je me souviens très bien du patron d'une toute petite entreprise qui avait recruté un apprenti, et bon, cet apprenti, ça marchait plus ou moins bien, mais son propos a été de dire, si je le lâche sur le marché du travail, il va pas s'en sortir, je veux le garder, tant pis, c'est pas grave, même si ça m'est rentable ou pas, je veux continuer à le former, il s'en sortira mieux dans 1 an ou 2 ans. Ben voilà, c'est dans la plus grande des discrétions, c'est sur un emploi en particulier, mais c'est formidablement généreux et solidaire. La solidarité n'a pas besoin de grandiloquence.
Alexandre Jardin, comment vous voyez l'avenir? J'imagine que vous avez dû être surpris, comme tout le monde, par cet élan de solidarité lors de cette crise sanitaire et de ce confinement qui a duré deux mois, totalement surpris. Vous qui côtoyez le monde de la solidarité, j'ai envie de dire, depuis de nombreuses années, comment vous voyez l'avenir? J'imagine que du coup, vous êtes extrêmement optimiste, non?
Oui, parce qu'on reste un grand pays. C'est-à-dire, un grand pays, c'est un pays qui est composé de grands citoyens. C'est de gens qui sont capables de se conduire bien lorsque le vent souffle. Et c'est vrai que quand on s'est lancé dans Masque Solidaire, je ne m'attendais pas à ce qu'on parvienne à résoudre tous nos problèmes de logistique avec différents partenaires. Il y a eu un moment, par exemple, le showroom de Lectra commençait à sortir des masques. Et on avait un vrai problème parce que pour faire des cartons et poser des étiquettes pour les importer sur la base de la Poste, parce que la Poste nous offre des chronopostes gratuits. Tout à coup, on a trouvé ces discounts. Ils ont dit oui. Et je suis assez fasciné de voir à quel point, quand on propose quelque chose qui a du sens dans un moment de crise, à quel point le civisme a été naturel. Lorsqu'on a demandé du tissu à H&M, ils nous ont filé des stocks. Des stocks, mais vraiment beaucoup. Quand on a demandé à Zadig et Voltaire, ils nous ont donné beaucoup. On reste un pays de gens qui ont une culture comme ça. Donc c'est pas vrai qu'on ne peut pas actionner. Au cœur de notre système, pour être très franc, tous les matins, on a eu une réunion pendant plus d'un mois, à 9h moins le quart, sur Zoom, avec toutes les équipes qui portaient masque solidaire. Et par moments, je me disais, mais si les Français voyaient à quel point tous ces gens se défoncent gratos, ils seraient stupéfaits. Ils seraient, l'homme que vous avez interviewé avant, Bertrand Zwiderski,
directeur du développement durable de Carrefour. Oui.
Il a eu dans cette réunion chaque matin un rôle absolument exemplaire de structuration en différents groupes de travail. Parce que c'est un homme qui a l'habitude de faire ça. Sans sa compétence organisationnelle, jamais on aurait pu monter en puissance comme ça.
On va se retrouver dans quelques minutes, Alexandre Jardin, pour poursuivre avec vous. Et on adore justement vous écouter, nous raconter comment s'est passée cette solidarité durant le confinement. Vous continuez de voter, tiens, c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Est-ce que les entreprises sont assez solidaires, oui ou non? Vous votez donc sur Twitter, Facebook, le 0826-300-300. Et puis nous, on va se retrouver avec Jérôme Lavernie, Alexandre Jardin. Et puis on rejoindra aussi Paul Pereira, directeur d'agence immobilière Ceinturie 21. Vous connaissez bien, eux, ils collectent des jouets pour les Restos du Cœur. Encore de la solidarité. À tout de suite. Overnight, 'cause I want you in my life, and I wanna love you. I will never make you cry.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Et notre question ce soir, notre débat fondation, fonds de dotation RSE, les entreprises sont-elles au rendez-vous de la solidarité? Et vos votes sur Twitter, évidemment, 70% de nos auditeurs qui répondent non à notre question. Toujours avec Jérôme Lavernie, directeur du réseau national Mission Emploi, l'écrivain Alexandre Jardin qui nous raconte sa solidarité, la solidarité depuis 19h30. Et puis alors, j'aimerais qu'on accueille deux personnes qui nous ont rejoints. Tout d'abord, Jocelyn Rigaud, qui accompagne justement les entreprises, qui crée un fonds de dotation. Bonsoir, Jocelyn Rigaud.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Et puis Paul Pereira, directeur d'agence immobilière Ceinturie 21. Paul Pereira et Ceinturie 21 qui collectent des jouets pour les Restos du Cœur, tout un programme. On va commencer avec vous, Jocelyn Rigaud. Comment vous accompagnez ces entreprises? On rappelle que donc un fonds de dotation, c'est en fait un arsenal, un moyen juridique pour pouvoir donner, faire des dons. Comment ça se passe? Comment vous accompagnez ces entreprises? Vous les accompagnez du début à la fin, dès leur envie, jusqu'à la concrétisation?
Voilà, oui. Bonsoir tout le monde. Donc oui, exactement, j'accompagne les entreprises du début à la fin, jusqu'à la réalisation de ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'au début, il y a la nécessité pour un chef d'entreprise de structurer son idée, structurer ce qu'il souhaite faire, mais pas uniquement un chef d'entreprise. Et je rejoins certains des propos que vous avez tenus lors de cette émission, c'est-à-dire que l'implication initiale des collaborateurs, elle est essentielle. Une idée seule du chef d'entreprise ne fonctionnera pas. Donc l'idée, c'est d'embarquer les collaborateurs dès le départ, de voir ce que les collaborateurs et le chef d'entreprise ensemble souhaitent définir via un diagnostic d'engagement, et ensuite je préconise soit un fonds de dotation, une fondation d'entreprise, ou la mise en place de simples actions de mécénat de compétences, dont vous parliez là aussi il y a 5 minutes, parce que là encore, ce genre de véhicule philanthropique ou de déroulé de mécénat ne s'adresse pas qu'à des grandes entreprises. Je voulais vous donner un chiffre qui va illustrer aussi ce que vous disiez tout à l'heure. 94% des entreprises mécènes en France sont des TPE ou des PME. Ça, c'est un chiffre qui est majeur. Les entreprises ne communiquent pas forcément là-dessus, et c'est peut-être ce qui se reflète d'ailleurs dans votre sondage, dont vous donniez le résultat à l'instant. Mais c'est-à-dire que je m'adresse vraiment à tout style d'entreprise. On a 2 salariés, on a 3 salariés, on souhaite mettre 3000 euros dans l'année, et bien c'est suffisant pour structurer une action de mécénat. Alors pour une fondation d'entreprise ou un fonds de dotation, il faut un petit peu plus d'argent pour démarrer, et encore cet argent est défiscalisé à hauteur de 60%, donc c'est aussi un avantage fiscal pour l'entreprise. Mais voilà, il est possible de faire des choses avec peu, et ça s'adresse vraiment de la toute petite entreprise jusqu'au grand groupe. Vous avez reçu tout à l'heure une personne de Carrefour. La Carrefour a sa fondation et fonctionne très bien. Mais on peut aussi le faire avec des petits moyens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de rappeler. Il n'y a pas de faux moyens, il n'y a pas d'absence de moyens. C'est-à-dire qu'avec peu, on peut faire des choses de manière assez simple. Et mon travail est vraiment de générer, au-delà de l'envie, c'est de concrétiser les choses, de les accompagner dans la structuration, de les accompagner dans l'implication des collaborateurs. Et si on crée demain un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise pour une entreprise, ça passe par des appels à projets pour de l'argent auprès d'associations, mais ça peut très bien aussi passer par le mécénat de compétences. Ce sont des dispositifs qui sont très structurés en France d'un point de vue légal. Et donc il est possible de faire énormément de choses. Mmh.
Alors la solidarité ne passe pas seulement par les fonds de dotation et Paul Pereira, vous en êtes l'exemple, directeur d'agence immobilière Century 21. Bonsoir Paul Pereira.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à vous Paul. Donc vous collectez des jouets pour les Restos du Cœur, c'est ça?
Tout à fait, oui. C'est arrivé une fois par an depuis 7 ans maintenant. On met en place une mécanique où effectivement on organise la collecte de jouets au profit d'organisations caritatives comme les Restos du Cœur. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas forcément des dons, on met surtout à notre disposition les forces vives de l'entreprise à travers la collecte, la mise en place, la redistribution, les sollicitations qu'on doit mener auprès des gens pour qu'ils nous appuient sur cette démarche. Et puis ça permet à tout le monde de générer un élan, je dirais, global, parce que c'est les particuliers, des associations qui nous aident dans cette démarche-là et qui nous soutiennent et nous permettent de collecter des jouets au profit des Restos du Cœur. On parle quand même de plusieurs milliers de jouets. Donc,
ah oui.
La dernière
Comment est née l'idée, Paul Pereira, comment est née l'idée il y a 7 ans de se dire, bah, tiens, on va collecter les jouets, on va les donner aux enfants des Restos du Cœur?
Un collègue et confrère, Century 21, dans le sud de la France, qui avait été sollicité par une association et qui avait mis en place cet événement. Et c'est vrai que autant on est très sollicité pour prendre son chéquier et son stylo, et qu'on avait plutôt envie, les équipes et moi, de s'investir autrement. Et on a beaucoup de jeunes dans nos effectifs, donc ça permet aussi d'avoir un message social auprès d'eux, leur ouvrir un peu les yeux sur ce qu'on peut faire d'autre que travailler. Et depuis, on n'a jamais lâché. On la refera cette année au mois de novembre. On ne lâchera pas.
Alexandre Jardin et Jérôme Laverny, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Vous voyez Alexandre, alors avec Jocelyn, on parlait évidemment de toutes ces entreprises qui passent par des fonds de dotation pour donner. Et puis avec Paul Pereira à l'instant, vous voyez encore de la solidarité des agences immobilières Century 21 qui font dans la collecte des jouets pour les Restos du Cœur. Finalement, toutes ces enseignes, toutes ces entreprises non seulement donnent, mais sont très très imaginatifs, Alexandre.
Le point commun, au fond, ce que fait Century 21, c'est qu'ils utilisent leur réseau. Donc, on voit bien que ce que les entreprises peuvent apporter de mieux, c'est l'utilisation de leurs moyens, de leur réseau, de leur le réseau Century 21, vous en avez partout. Donc, ils peuvent collecter partout. Et c'est vrai que moi, je vois bien qu'au fil des ans, moi, ça fait 20 ans que je monte des programmes civiques, et je vois bien qu'il y a de plus en plus de gens, soit à la tête de petites boîtes, soit de grands réseaux. À la tête de Century 21, il y a Laurent Vimont, qui est une personnalité tout à fait hors du commun, et qui est complètement, il est complètement d'accord avec l'idée que les entreprises doivent utiliser leur spécificité, et pas uniquement leur chéquier. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a plus d'argent public. Je le sais parce que je suis derrière énormément d'associations et il n'y a plus d'argent public. Donc, il va falloir qu'on soit très créatif, qu'on utilise les ressources du pays là où on va les trouver. L'argent public est rare. Actuellement, un programme comme Lire et Faire Lire, ce que donne l'État, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Donc, on a appris à se démerder. Mais la bonne nouvelle, c'est que le roman français, il est en train de changer. Ce pays est en train de se réinventer. Alors, parfois en mal, mais aussi très souvent en bien. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si on va vers beaucoup de fracas ou beaucoup de renaissance. Mais c'est le même pays qui contient les deux en ce moment.
Merci à vous Alexandre Jardin, écrivain, et puis je rappelle que votre livre sort demain, Alexandre, c'est Française aux éditions Albin Michel, voilà, mercredi 3 juin, la sortie de son nouveau roman, allez vous le procurer, Alexandre Jardin et Française aux éditions Albin Michel, merci à vous, merci mille fois Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, on va remercier Paul Pereira, directeur d'agence immobilière Century 21, qui nous a expliqué comment y collecter des jouets depuis quelques années, et puis on va remercier également Jocelyn Rigaud, qui accompagne les entreprises, qui crée un fonds de dotation. Merci à vous quatre, on va accueillir tout de suite quelqu'un qui est très généreux aussi, rien que par sa voix, il nous donne beaucoup de bonheur chaque soir, c'est Yvan Cujous, bonsoir Yvan.
Oh bien sûr, c'est gentil, alors que j'ai du mal à parler en jouant. Et
ah Fifi, c'est dommage, c'est fâcheux quand même.
Et vous reconnaissez ça? Vous reconnaissez ça? J'arrive pas. Oh, quand même, dès
non,
que je joue
non.
Un truc qui est pas français, vous connaissez pas. Vous connaissez que la chanson française. Eh bien, c'était le groupe Toto Hold the Line. Voilà.
Eh oui, bien
c'était
sûr.
Pour montrer,
eh
oui. Pour montrer.
Pourtant,
que
je suis très bon en blind test.
Hein.
Je suis très bon en blind test dans les campings l'été. Eh oui.
Mais je le sais, vous êtes le meilleur de toute la radio, blind test. Si je le sais.
Le programme Yvan ce soir.
Nous aurons Valérie Zetoun qui va nous proposer de découvrir sa nouvelle découverte. On découvre, tout le monde découvre ce soir. Elle s'appelle Jeanne Gabriel. Nous aurons la chanteuse très engagée féministe Agnès Bill. Et puis, quelqu'un que vous connaissez forcément qui cartonne et qui vient avec son nouvel album Sommeil Levant. Elle s'appelle Oshi. Et vous pouvez lui poser la question 0826 300 300. Merci mon Fifi aussi. Il me tarde de cochon ensemble.
Merci à vous. Bonne émission.
Il me tarde.